Le marquis de Sade, les filous. Il y a eu de tous les temps à Paris une classe d'hommes répandus dans le monde dont l'unique métier est de vivre aux dépens des autres. Rien de plus adroit que les manœuvres multipliées de ces intrigants. Il n'est rien qu'ils n'inventent, rien qu'ils n'imaginent pour amener, soit d'une façon, soit d'une autre, la victime en leur maudit filet. Pendant que le corps d'armée travaille dans la ville, des détachements voltigent sur les ailes, s'éparpillent dans les campagnes et voyagent principalement dans les voitures publiques. Cette triste exposition, solidement établie, revenons à la jeune novice que nous allons bientôt pleurer de voir en d'aussi mauvaises mains. Rosette de Flerville, fille d'un bon bourgeois de Rouen, à force de sollicitations, venait enfin d'obtenir de son père d'aller passer le carnaval à Paris auprès d'un certain monsieur Mathieu, son oncle, riche usurier rue Quincampoix. Rosette, quoique un peu niaise, avait pourtant 18 ans faits, une figure charmante, blonde, de jolis yeux bleus, la peau à éblouir, et une gorge sous un peu de gaz, annonçant à tout connaisseur que ce que la jeune fille tenait à couvert valait bien au moins ce qu'on apercevait. La séparation ne s'était pas faite sans larmes. C'était le premier soir que le bon papa quittait sa fille. Elle était sage, elle était très en état de se conduire, elle allait chez un bon parent, elle devait revenir à Pâques, tout cela devenait sans doute des motifs de consolation. Mais Rosette était bien jolie, Rosette était bien confiante et elle allait dans une ville bien dangereuse pour le beau sexe de province, y débarquant avec de l'innocence et beaucoup de vertu. Cependant, la belle part, munie de tout ce qu'il lui faut pour briller à Paris, dans sa petite sphère, et de plus d'une assez grande quantité de bijoux et de présents pour l'oncle Mathieu et les cousines ses filles. On recommande Rosette au cocher, le père l'embrasse, le cocher fouette et chacun pleure de son côté. Mais il s'en faut bien que l'amitié des enfants soit aussi tendre que celle de leur père. La nature a permis que les premières se trouvassent dans les plaisirs dont ils s'enivrent des sujets de dissipation faits pour les éloigner involontairement des auteurs de leur jour, et qui refroidissent dans leur cœur les sentiments de tendresse plus isolés, plus ardents, et bien autrement sincères dans l'âme des pères et des mères, touchant à cette fatale indifférence, qui les rendant insensibles aux anciens plaisirs de leur jeune âge, fait qu'ils ne tiennent plus, pour ainsi dire, qu'à ces objets sacrés qui les revivifient. Rosette éprouva la loi générale. Ses larmes furent bientôt séchées, et ne s'occupant plus que du plaisir qu'elle se faisait de voir Paris, elle ne tarda pas à faire connaissance avec des gens qui y allaient et qui semblaient le connaître mieux qu'elle. Sa première question fut de savoir où était la rue Quincampoix. « C'est bon quartier, mademoiselle, » répond un grand drôle bien bâti, qui, tant à cause de son espèce d'uniforme et de la prépondérance de son ton, tenait les dés dans la société cahotante. Comment, monsieur, vous êtes de la rue Quincampoix? Il y a plus de 20 ans que je l'habite. Oh, si cela est, dit Rosette, vous connaissez donc bien mon oncle Mathieu. Monsieur Mathieu est votre oncle, mademoiselle? Assurément, monsieur, oui, je suis sa nièce. Je vais pour le voir, je vais passer l'hiver avec lui, avec mes deux cousines Adélaïde et Sophie, que vous devez bien connaître, aussi sans doute. Oh, si je les connais, mademoiselle, et comment ne connaîtrais-je pas, et monsieur Mathieu, qui est mon plus proche voisin, et mademoiselle ses filles, de l'une desquelles, par parenthèse, je suis amoureux depuis plus de 5 ans. Oh, vous êtes amoureux d'une de mes cousines? Je cache que c'est de Sophie. Non, non, vraiment, c'est d'Adélaïde. Oh, une figure charmante. C'est ce qu'on dit dans tout Rouen, car pour moi, je ne l'ai jamais vue. C'est pour la première fois de ma vie que je vais dans la capitale. Oh, vous ne connaissez pas vos cousines, mademoiselle, ni monsieur Mathieu non plus, sans doute. Mais mon Dieu, non. Monsieur Mathieu quitte à Rouen l'année que ma mère accoucha de moi, et il n'y est jamais revenu. C'est un bien honnête homme, assurément, et qui sera bien enchanté de vous recevoir. Une belle maison, n'est-ce pas? Oui, mais il en loue une partie. Il n'occupe que le premier appartement. Et le rez-de-chaussée, oh, sans contredit, et même quelques chambres en haut, ce que je crois. Oh, c'est un homme bien riche, mais je ne lui ferai pas des honneurs. Tenez, voyez, voilà 100 beaux doubles louis que mon père m'a donnés pour me vêtir à la mode afin de ne pas faire honte à mes cousines. Et de jolis présents que je leur porte aussi. Tenez, voyez-vous, ces boucles d'oreilles, oh, elles valent bien 100 louis au moins. Eh bien, ça, c'est pour Adélaïde. C'est pour votre maîtresse. Et ce collier qui va bien, pour le moins, au même prix, c'est pour Sophie. Oh, ce n'est pas tout, tenez. Voyez cette boîte d'or avec le portrait de ma mère. On nous l'estimait encore hier plus de 50 louis. Eh bien, c'est pour mon oncle Mathieu. C'est un présent que mon père lui fait. Oh, je suis bien sûr qu'en hardes, en argent ou en bijoux, j'ai pour plus de 500 louis sur moi. Oh, vous n'aviez pas besoin de tout cela pour être bienvenue de monsieur votre oncle, mademoiselle, dit le filou, reliant la belle et ses louis. Il fera bien sûrement plus de cas du plaisir de vous voir que de toutes ces fadaises. Mais n'importe, n'importe, mon père est un homme qui fait bien les choses. Il ne veut pas qu'on nous méprise parce que nous habitons la province. En vérité, mademoiselle, on a tant de plaisir dans votre société que je voudrais que vous ne quittassiez plus Paris et que monsieur Mathieu vous donnât son fils en mariage. Son fils, il n'en a point. Son neveu, veux-je dire, ce grand jeune homme. Qui, Charles? Ah, justement, Charles, parbleu, oui, le meilleur de mes amis. Quoi, vous avez aussi connu Charles, monsieur? Si je l'ai connu, mademoiselle, mais je fais bien plus, je le connais encore, et c'est uniquement pour l'aller voir que je fais le voyage de Paris. Vous vous trompez, monsieur, il est mort. J'étais destiné à lui dès son enfance, je ne le connaissais pas, mais on m'avait dit qu'il était charmant. La manie du service lui a pris, et il a été à la guerre et il y a été tué. Bon, bon, mademoiselle, je vois bien que mes désirs se réaliseront. Soyez-en sûre, on veut vous surprendre. Charles n'est point mort, on le croyait, il y a 6 mois qu'il est revenu, et il m'écrit qu'il va se marier. D'une autre part, on vous envoie à Paris, n'en doutez pas, mademoiselle, c'est une surprise. Dans 4 jours, vous êtes la femme de Charles, et ce que vous portez ne sont que des présents de noces. En vérité, monsieur, vos conjectures sont pleines de vraisemblance. En réunissant ce que vous me dites à quelques propos de mon père qui me reviennent à présent, je vois qu'il n'y a rien de si possible que ce que vous prévoyez. Quoi, je me marierais à Paris? Je serais une dame de Paris? Oh, monsieur, quel plaisir! Mais si cela est, il faut que vous épousiez Adélaïde au moins. Je ferai tant que je m'y déterminerai, ma cousine, et nous ferons des parties carrées. Telles étaient, pendant la route, les conversations de la douce et bonne Rosette, avec le fripon qui la sondait, se promettant bien d'avance de tirer un bon parti de la novice qui se livrait avec tant de candeur. Quel coup de filet pour la bande libertine! 500 louis et une jolie fille, qu'on dise qu'elle était celui d'essence qui n'est pas celui chatouillé d'une telle trouvaille. Dès qu'on approcha de Pontoise, « Mademoiselle, dit l'escroc, il me vient une idée. Je m'en vais prendre ici des chevaux de poste afin de vous devancer chez monsieur votre oncle et de vous annoncer à lui. Ils viendront tous au-devant de vous, j'en suis sûr, et vous ne serez pas isolé au moins en arrivant dans cette grande ville. Le projet s'accepte. Le galant monte à cheval et, se dépêchant d'aller prévenir les acteurs de sa comédie, quand il les a instruits et prévenus tous, deux fiacres amènent à Saint-Denis la prétendue famille. On descend à l'auberge, l'escroc se charge des présentations, Rosette trouve là M. Mathieu, le grand Charles arrivant de l'armée et les deux charmantes cousines. On s'embrasse, la Normande remet ses lettres, le bon M. Mathieu verse des larmes de joie en apprenant que son frère est en bonne santé. On n'attend pas à Paris à distribuer les présents. Rosette, trop empressée de faire valoir la magnificence de son père, se hâte aussitôt de les prodiguer. Nouvelles embrassades, nouveaux remerciements, et tout s'achemine vers le quartier général de nos filous qu'on fait prendre la belle pour la rue Quincampoix. On débarque dans une maison d'assez belle apparence. Mademoiselle Flarville est installée. On porte sa malle dans une chambre et l'on ne pense plus qu'à se mettre à table. Là, l'on a soin de faire boire la convive jusqu'à lui troubler la cervelle. Accoutumé à ne s'abreuver que de cidre, on lui persuade que le vin de champagne est le jus des pommes de Paris. La facile Rosette fait tout ce qu'on veut. Enfin, la raison se perd. Et une fois hors d'état de défense, on la met nue comme la main, et nos filous, bien assurés qu'elle n'a plus aucune chose sur le corps que les attraits que lui prodigua la nature, ne voulant pas même lui laisser cela sans les flétrir, s'en réjouissent à cœur joie pendant toute la nuit. Content enfin d'avoir eu de cette pauvre fille tout ce qu'il était possible d'en tirer, satisfait de lui avoir ravi sa raison, son honneur et son argent, il la revêt d'un mauvais haillon, et avant que le jour ne paraisse, ils vont la déposer sur le haut des marches de Saint-Roch. L'infortunée, ouvrant les yeux en même temps que le soleil commence à luire, troublée de l'état affreux où elle se voit, se tâte, s'interroge, et se demande à elle-même si elle est morte ou si elle est en vie. Les polissons l'entourent, elle est longtemps leur jouet. On la porte enfin à sa demande chez un commissaire où elle raconte sa triste histoire. Elle supplie qu'on écrive à son père et qu'on lui donne en attendant asile quelque part. Le commissaire voit tant de candeur et d'honnêteté dans les réponses de cette malheureuse créature qu'il la reçoit dans sa maison même. Le bon bourgeois normand arrive et, après bien des larmes versées de part et d'autre, ramène sa chère enfant dans sa maison, qui n'eut, dit-on, de la vie le désir de revoir la capitale policée de la France.